Vous êtes sur Westrack Radio. On continue nos rencontres dans le cadre de la Journée Bleue, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et maintenant, écoutons le témoignage de Jacques-André Bourdoiseau qui a accepté notre invitation. Je retrouve Jacques-André au studio Westrack Radio qui a accepté de parler de son parcours à l'occasion de cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Bonjour Jacques-André.
Bonjour Marie-Ange.
Ça va ?
Très bien.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Donc, je m'appelle Jacques-André, j'ai 35 ans, je suis à vrai depuis il y a à peu près 3 ans, mais je suis originaire de La Rochelle, j'ai vécu toute mon enfance jusqu'à 32 ans. J'ai été diagnostiqué autiste Asperger il y a 4 ans à peu près, en Poitou-Charentes, et je suis arrivé au Havre il y a à peu près 3 ans, donc suite au diagnostic.
Quelle est pour vous la définition du trouble du spectre autistique ?
Avant tout, pour moi, c'est une difficulté dans les relations sociales à comprendre le monde... des gens neurotypiques, entre guillemets, donc les non-autistes, à savoir comment ils fonctionnent, à comprendre leur monde et à m'intégrer socialement, à avoir des amis, à avoir une vie, entre guillemets, normale, un travail, un logement, une vie de famille, par exemple, et tout ce qui s'ensuit. En ce qui me concerne, j'avais beaucoup de mal à m'intégrer socialement, en fait. Ce que je pourrais rajouter, c'est que j'ai des particularités sensorielles. En ce qui me concerne, en fait, c'est que j'ai une hypersensibilité auditive, donc je suis très sensible au bruit. Et j'ai aussi un énorme problème pour comprendre les conversations en milieu bruyant en fait. Mais il suffit juste qu'il y ait deux personnes qui parlent en même temps et j'ai beaucoup de mal à comprendre. 3-4, c'est la...
cacophonie.
Presque pas possible. Et dans une foule, c'est impossible d'écouter une personne en fait. Enfin, ça demande une attention particulière, mais comme tout le monde. Mais c'est vraiment... ça peut arriver à un moment où j'ai mon cerveau qui se déconnecte et j'entends plus de voix en fait. J'entends que du... J'espère que c'est une bonne imitation, mais en gros, ça ressemble à ça. Et j'ai une autre particularité, c'est aussi le, au niveau du toucher, mais ça s'est un peu atténué avec l'âge, c'est que je détestais qu'on puisse me toucher. Et il fallait qu'on me prévienne qu'on allait me toucher, donc me prendre dans les bras, ou me toucher, tout ça, ou même me faire la bise quand j'étais jeune, et que j'accepte qu'on puisse me toucher. Donc il fallait que je sois en condition. Il y a le double fait, le fait qu'on me surprenne, et le fait que je ne sois pas disposé à qu'on me touche. Même m'effleurer, tout ça, c'est violent dans le sens où c'est un peu comme si c'était animal, en fait. Ça me fait faire des sursauts et ça me... comme une crise de panique, en fait. Mais c'est pas contrôlable, en fait. Ça peut être très bien que des gens que j'adore ou que j'apprécie. Et si j'ai pas été préparé, bah, ça fait comme un réflexe et voilà. C'est presque douloureux, en fait. Je suis aussi sensible aux odeurs, mais plus aux odeurs auxquelles j'aurais pas été préparé à respirer. Donc c'est un peu bizarre. C'est surtout les odeurs de cigarettes quand je me promène dans la rue. Je peux sentir l'odeur de la cigarette avant de l'avoir vu quelqu'un qui fume dans le coin et je sais à peu près dans quelle direction. Et je vais pester parce que c'est une odeur forte, désagréable en fait. Pareil presque pour les parfums parfois.
Qui sentent bon ou qui sentent pas
ça
bon.
Ça peut sortir bon ou pas bon, c'est là un problème d'intensité en fait. Pareil pour la pollution, quand je vais courir, ça a été un gros problème quand j'ai commencé à courir au Havre. Ça s'est un peu atténué, mais j'étais le seul dans le groupe à sentir la pollution et à plaindre que ça sentait les voitures, que ça sentait la pollution du Havre et qu'en plus de faire l'effort de respirer, bah ça c'était plus difficile en fait, à ce niveau-là. C'est difficile de faire abstraction de ça parce que c'est envahissant en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler en se disant tiens, je vais plus y penser ou me boucher le nez. Par exemple, je suis sans doute un des rares dans la rue à me boucher les oreilles quand il y a une voiture qui fait trop de bruit, une moto qui passe dans la rue. Mais ça, j'ai plus honte de le faire parce que j'ai pas honte de me protéger les oreilles et de me protéger, en fait.
C'est vous qui avez pris le contact avec le corps médical pour qu'on vous dépiste. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ? Donc, vous disiez un décalage au niveau de la communication avec les autres ?
En fait, c'est surtout un genre de mal-être par rapport au vivre ensemble. Quand je suis seul, j'ai pas de problème, on va dire. Dès que je suis en contact avec d'autres, je me sens tout le temps en décalage, comme vous avez dit, et du mal à les comprendre, et les autres ont du mal à comprendre aussi, en fait. Un problème de communication. Et il y avait toujours un truc que j'avais eu depuis l'enfance de savoir ce qui clochait, parce que malgré une intelligence indéniable, on me dit toujours que je suis intelligent, que je suis vif d'esprit, mais malgré tout, j'ai du mal à comprendre les autres et à faire avec, quoi.
Et à savoir ce que eux attendent de vous ou...
Voilà, les intentions, les sous-entendus, les émotions aussi des autres surtout. À savoir quand ils savent que je passe les limites et qu'ils sont trop en colère contre moi avant qu'ils pètent les plombs en fait. Et réciproquement pour moi, savoir connaître mes émotions, savoir si je suis bien ou pas bien et réagir en conséquence. Ce qui concerne la recherche de diagnostic, c'est fait que j'ai eu un parcours atypique. J'ai fait des études malgré mes difficultés sociales. J'étais assez bon élève. Donc j'étais jusqu'au doctorat à La Rochelle, donc jusqu'à une trentaine d'années. Et après le doctorat, je suis effondré, j'ai eu un genre de burn-out. J'ai coupé les liens socialement, je suis reclus chez moi, ouais, pendant plusieurs années. Et je cherchais à savoir pourquoi je n'arrivais pas à comprendre les autres. Donc, je suis documenté. J'écoutais de droite à gauche ce qui se faisait, ce qui pourrait coller sur mon corps, en fait. Et je suis tombé petit à petit sur des témoignages d'autisme sur Internet. Il y a un téléfilm qui m'a particulièrement parlé, c'est La vie de Temple Grandin. Donc, c'est une autiste célèbre aux États-Unis. Je suis totalement retrouvé dans son témoignage. Et à partir de là, j'ai creusé la piste de l'autisme. Et ça a pris plusieurs mois, voire plusieurs années pour comprendre qu'il fallait contacter un centre de ressources autisme, donc les CRA qu'on trouve dans chaque région maintenant, et qui sont le pôle où il fallait toquer à la porte
pour avoir une réponse.
Voilà. Donc ça peut prendre du temps, surtout que les, en ce qui concerne le diagnostic des adultes, c'est pas prioritaire par rapport aux enfants. Donc ça peut prendre au moins 2 ans, au moment où on dépose un dossier pour faire une demande de diagnostic, jusqu'au moment où on commence les tests et qu'après on nous donne une réponse. Voilà.
Donc ça a été votre cas ?
Oui, ça a duré un certain nombre d'années. 2 ans, plus le temps de passer les tests et d'avoir le résultat, ça prend 3 ans total, on va dire.
Vous avez vu combien de médecins ?
Concernant le diagnostic, en proprement parler, c'est une équipe multidisciplinaire. Donc en fait, il y a un psychiatre avec des psychologues et des éducateurs qui m'ont vu à tour de rôle et qui m'ont posé des questions, des entretiens. Et on a beaucoup discuté et au final, ils m'ont diagnostiqué.
Est-ce qu'il y a eu un avant et un après diagnostic ? Est-ce que votre vie a changé depuis qu'il y a eu enfin un mot sur votre particularité ?
En fait, ça m'a surtout permis d'arrêter de me poser des questions et à chercher des réponses, en fait, puisque je les avais obtenues. Et ça permet surtout de se déculpabiliser par rapport aux difficultés qu'on peut avoir au quotidien. Et surtout, ça nous permet de mieux nous comprendre. Enfin, moi, ça m'a permis de me comprendre et donc de mieux pouvoir m'intégrer, de mieux comprendre le monde qui m'entoure aussi. Parce qu'en fait, j'avais une vision biaisée et complètement fausse des relations humaines. Donc, j'étais obligé de tout réapprendre à 32 ans, du coup. C'est pas facile, mais je suis motivé pour apprendre à connaître les gens. Et depuis 3-4 ans, j'apprends tous les jours, en fait. Comme un enfant qui apprend à la maternelle à être en contact des autres enfants, moi j'apprends depuis 4 ans à être en contact avec les gens normaux, entre guillemets, et tout le monde, en fait, voilà.
Comment ça s'était passé avant ? Pour l'humour, par exemple, le second degré, ça allait ?
Alors moi, je suis assez... j'adore l'humour. Donc le second degré, j'arrive à le prendre en compte, mais c'est quand ça concerne les autres ou quand je suis extérieur. Quand ça me concerne, j'ai du mal à savoir si on fait de l'humour avec moi ou si on se moque de moi, en fait. Quand je vois ça de l'extérieur, c'est plus facile. Même aujourd'hui, quand ça me concerne, j'ai toujours un peu de mal. Donc avec des inconnus dans un groupe que je connais pas trop, je serais pas trop, en fait. Je serais en décalage toujours. Mm-hmm. Mais je le prendrais pas mal parce que je sais que j'ai des difficultés avec ça. Et que c'est pas lié qu'à l'autisme, mais il y a des gens aussi qui ont du mal en société, donc je vis très bien.
D'accord, donc l'humour pour vous, c'est acquis.
Et c'est très important parce que j'aime bien rire.
D'accord. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui ?
Donc, je suis employé par l'association Asperger Family, qui est basée au Havre. Et elle m'a proposé d'encadrer un atelier de répit scolaire. Donc, cet atelier consiste à prendre un certain nombre, 3 ou 4 enfants autistes sur la région du Havre, et à les sortir de l'école pendant une demi-journée par semaine, et à leur faire école autrement, et à leur apprendre les codes sociaux en parallèle des bases scolaires. Voilà.
Alors c'est peut-être une petite question un petit peu maladroite de ma part. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre ? Est-ce que vous allez au cinéma ? Est-ce que vous faites du vélo, une randonnée en forêt ? Est-ce que vous regardez des séries ? Est-ce que vous allez voir des concerts ?
Alors mon temps libre,
oui.
Je passe essentiellement à me ressourcer et à faire des choses en solitaire. Malgré que j'ai de plus en plus de contacts et des amis, mais ça passe essentiellement à, selon mon humeur et selon les saisons, à regarder des séries à la télé, je peux jouer à des jeux vidéo, je peux beaucoup lire, j'adore lire, je peux faire un peu de guitare, je peux aller courir aussi, mais c'est des activités plutôt solitaires. Voilà. Mm-mm. Mais c'est en train de changer.
D'accord, c'est en évolution. Si vous aviez un dernier mot à transmettre aux auditeurs qui nous écoutent pour cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qu'est-ce que vous diriez ?
Est-ce qu'une hirondelle peut porter une noix de coco ? Petite référence au Monty Python. Non, on va faire plus...
plus sérieusement. Ou pas sérieusement d'ailleurs.
Mais ça, tu peux le garder si tu veux.
Ouais. Je laisse comme ça aller emballer. C'est pesé.
Non, plus sérieusement, ces dernières années, on parle beaucoup de l'autisme en France. Et c'est bien. Et c'est dommage parce que ça devrait faire depuis plusieurs décennies que ça devrait être connu de tous, en fait. Parce que c'est pas une tare. Ça devrait pas être tabou. Et dans plusieurs pays, je ne citerai pas, mais anglo-saxons en particulier, eh ben, c'est presque commun, en fait. C'est même, ça passe à la télévision, ils en font des téléfilms, et ils se posent même pas la question de savoir si les gens connaissent ou pas l'autisme, c'est plutôt de savoir comment les intégrer au mieux, et c'est pas une différence plus que si c'était, j'ai même pas d'exemple en tête, mais pour eux, c'est comme si c'était la couleur des cheveux, quoi.
Et même dans leur série, en fait, dans leur série TV, ils proposent des rôles, en tant que personne autiste Asperger, en personnage principal, je pense à Hannibal, par exemple.
Ou Elementary.
Qui sont des personnages avec autisme.
D'ailleurs, on pourrait faire une parenthèse, parce que c'est assez amusant. Avant même que je sache que c'était des personnes avec autisme dans ces séries, enfin, qui représentaient des personnes avec autisme, je m'identifiais à ce genre de personnage, je me disais, tiens, il y a quelque chose de commun avec moi. C'est bizarre. Et même avant même que je sois diagnostiqué, ou même avant même que je connaisse l'autisme avec une nouvelle formule, on va dire, parce que j'ai... Comme la plupart des gens, j'avais une image biaisée de l'autisme, donc cette journée est très importante. J'espère que ça vous aura donné une image différente de l'autisme. Merci.
Jacques-André Bourdoiseau a été diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique sur le tard. Il n'est pas un cas isolé, vous le verrez au fur et à mesure des témoignages que vous allez entendre aujourd'hui sur Westrack Radio. Nous allons faire une pause musicale avec I Dream the Dream de Susan Boyle, qui, tout comme Jacques-André, a été diagnostiqué tardivement d'un trouble du spectre autistique.
I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, when dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. With a voice as soft as thunder, as they tear your hopes apart, and they turn your dream to shame. I dream.